Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de philosophie, Osons la philosophie, avec Françoise Gernot. Bonjour Françoise.
Bonjour Sylviane, bonjour à toutes et à tous.
Alors, nous sommes là pour enregistrer deux émissions que vous avez intitulées « Philosophie de l'argent » et vous vous êtes inspiré, enfin vous avez copié même, le titre de l'œuvre de Georges Simmel qui s'appelle donc « La philosophie de l'argent » qui a été écrit en 1900, mais qui est toujours d'actualité.
Oui, eh bien, j'ai choisi le livre de Georges Simmel, Georg Simmel. Je prononce Simmel, ça s'écrit en français S-I-2-M-E-L. J'ai donc emprunté le titre de mon émission au titre même de son ouvrage, d'un ouvrage qu'il juge comme véritablement la somme de toute sa recherche, qui est Georges Simmel, ou Georg Simmel. Il faut en dire quelques mots. Il est né en 1858 dans une famille orphelin, mais d'une famille richissime. Il hérite d'une banque. Il appartient à une famille, donc il s'est converti, la famille s'est convertie au protestantisme. Et il conduit avec beaucoup de difficultés une carrière universitaire. Alors pourquoi cette difficulté? Eh bien nous le verrons peut-être aujourd'hui, parce que officiellement surtout à Strasbourg à la fin, il réussit à avoir une chaire universitaire de plein droit. Mais le titre, en quelque sorte, sa titulature, c'est celle d'un professeur de sociologie. Or, vous voyez, le titre de ce livre, Philosophie de l'argent, le prestige aussi qu'il accorde à ce livre, et il est vrai que cet ouvrage est une des choses les plus prestigieuses du début du siècle, vous rappelez qu'il a été rédigé en 1900 et repris, enrichi en 1907. Je ferai un parallèle. Parce que quelquefois, il y a une affinité étrange entre la publication en 1900 de la philosophie de l'argent et la publication cette année-là même par Freud, de la Traumdeutung, c'est-à-dire de du grand livre sur l'interprétation des rêves. Bien.
Alors je rappelle qu'il est né sous l'Empire de Prusse.
Oui,
et
tout à fait.
Il est décédé en 1918, donc oui. Il a connu la Première Guerre mondiale.
Oui, oui, oui. Et justement, il décède, mais 3 ans après enfin avoir obtenu un poste universitaire. Alors, la raison, disais-je, pour laquelle il a eu ces difficultés universitaires, la raison, je dirais, intellectuelle principale, il y en a d'autres qui tiennent à sa personnalité, mais elle tient à ceci, c'est que c'est une œuvre, et on le voit très bien dans cet ouvrage, c'est une étude, ce sont des études, et on le voit très bien dans cet ouvrage, qui unissent de manière tout de même cohérente une multiplicité d'études avec des facettes très, très différentes, parce que nous avons des intuitions qui sont conduites intellectuellement et qui sont conduites théoriquement, qui portent sur le psychisme humain, sur l'action humaine et ici, évidemment, sur les grandes questions économiques, mais tournées sur une interrogation. Et cette interrogation, c'est pourquoi il s'agit d'une philosophie de l'argent, malgré, encore une fois, la multiplicité des approches. Il s'agit d'une philosophie de l'argent en ce sens où ce que Simmel tente et réussit, je crois, avec grande virtuosité à définir, c'est l'essence de l'argent. Il est philosophique de définir une essence, c'est-à-dire une sorte de vision théorique idéale de ce qu'est l'argent.
Oui, c'est pas la monnaie, c'est pas la...
Mais bien sûr, il s'agira dans l'étude même de faire appel à des données empiriques et historiques, des données anthropologiques et sociologiques concernant le phénomène de l'argent et de la monnaie. Oui. Et de l'argent et de la monnaie, essentiellement, effectivement, comme élément d'échange. Mais tout ne commence pas avec l'échange chez lui.
Alors, c'est un livre très vaste, hein, plus de 500 pages, je crois, et vous vous attachez surtout à la première partie du livre. Hein. Et vous en lirez, bien sûr, comme dans chaque émission, des extraits.
Oui, autour de 650 pages dans la traduction très serrée, la traduction française, point final. Eh bien, je disais que le thème, eh bien, celui d'une analyse très patiente, très circonstanciée, de l'argent et de l'argent comme valeur, ou plutôt comme signe de la valeur. Hein. Alors, je précise signe de la valeur. Petite remarque, il ne s'agit pas d'estimer la valeur de l'argent, mais de montrer comment l'argent institue la valeur. Je commence tout de suite, abruptement, par une citation. Et cette citation, elle va me permettre, va nous permettre de prendre, je dirais, point par point, les éléments essentiels qui se structurent les uns par rapport aux autres de cette thématique de l'argent. Voici la citation. La discussion sur l'essence de l'argent est traversée en tout lieu par la question suivante. Pour remplir sa fonction de mesurer, échanger, représenter des valeurs, l'argent doit-il être lui-même une valeur ou bien peut-il se contenter alors d'être simplement signe et symbole dépourvu de valeur propre, tel le jeton qui représente des valeurs sans être de même essence qu'elles. Je vais essayer de dénouer cette longue citation et c'est l'analyse d'une certaine manière de cette citation qui va me permettre de, par étape, comme je disais à l'instant, d'élucider tout cela.
Oui.
Voilà. Donc, la discussion porte bien sur l'essence de l'argent. Question philosophique par excellence, d'origine socratique. Hein? La question « qu'est-ce que ?» est la question principielle de la philosophie. J'enchaîne. La discussion sur l'essence de l'argent est traversée en tout lieu par la question suivante. Alors, c'est bien cette question qui est déployée dans toute l'œuvre. Pour remplir sa fonction de mesurer, échanger, représenter les valeurs. Des valeurs. Alors, nous voyons bien que tout de suite est énoncée par Simmel la fonction de l'argent.
Oui. Hein,
sa fonction. Et cette fonction, c'est mesurer. Échanger, représenter des valeurs. Alors, mesurer. Hein, l'argent permet de mesurer les valeurs. Bon, par exemple, de mesurer les valeurs des marchandises, hein, puisque nous allons voir que nous sommes tout de suite d'emblée dans un système de commerce, dans un système d'échange marchand. Alors, la question est la suivante. Est-ce que l'argent doit être lui-même une valeur pour mesurer la valeur? La réponse sera négative. Hein, j'anticipe. L'argent a pour fonction d'échanger les valeurs. Alors, règne évidemment sur derrière toutes ces analyses, le fantôme, je dis bien, le fantôme du troc.
Oui, j'allais poser la question. Oui. Avant, il y avait le troc.
Alors, le troc, me semble-t-il, alors ça, c'est ma position, et j'ai essayé de la découvrir aussi dans l'œuvre, dans les lignes même de Simmel. Je pense que le troc est un modèle qui évoque une forme d'échange primitif, mais ça n'est qu'un modèle, je dirais, à la limite, une fiction anthropologique. Je ne crois pas du tout qu'il y ait eu du troc à l'état pur. Il y a des systèmes d'échange qui sont extrêmement complexes dans les sociétés que, je crois assez malheureusement, Simmel appelle naturel, mais ça ne relève pas de ce qu'on appelle le troc. Hein. C'est l'économie politique anglaise qui a considéré qu'à l'origine de l'économie, il y avait le troc, mais je pense que c'est un... Non, non, il y a véritablement ce fantôme du troc, mais échanger, nous le verrons, c'est tout de suite, c'est immédiatement autre chose que du simple troc. Au moins dans les exemples que nous donne Simmel, parce qu'il parle justement des systèmes d'échange dans des sociétés qui sont pré-commerciales. L'argent représente les valeurs. Alors, nous voyons bien s'avancer avec cette idée de représentation qu'il s'agira de la valeur de signe de l'argent, ou la valeur de symbole de l'argent. Je poursuis la phrase. L'argent est-il... Doit-il être lui-même une valeur? Ou bien peut-il se contenter alors d'être simplement signe et symbole dépourvu de valeur propre ? Bon, je donne un exemple très facile. Faut-il que l'argent soit, par exemple, enfin le mot argent en français est un peu gênant, faut-il que l'argent soit, par exemple, de l'or ou de l'argent, de la matière précieuse, pour avoir cette valeur, pour qu'on lui confère cette valeur de signe ? Alors la réponse sera non, et nous verrons comment cette réponse, justement, se monnaie, si j'ose dire.
Enfin, on reparlera de l'or, qui est tout de même le,
le
placement.
Oui, alors ça, c'est autre chose, c'est peut-être. Autre chose. Oui. L'or comme valeur refuge, ça, c'est, c'est une autre question. Donc, l'argent doit-il être lui-même une valeur, ou bien peut-il se contenter alors d'être un simple signe ou symbole dépourvu de valeur propre ? Tel le jeton. Alors, je ne sais pas, en anglais, c'est token, qui représente des valeurs sans être de même essence qu'elles. Alors, ce que va essayer de montrer, ce qu'essaie de montrer Zimmel, c'est que l'argent, la valeur de l'argent, ou plutôt l'argent comme valeur, ne tient pas en quelque sorte à ses fondements substantiels qui seraient ceux d'une matière précieuse, quelle qu'elle soit, pas nécessairement l'or. Zimmel va essayer de démontrer que si l'argent peut mesurer, échanger, représenter les valeurs, c'est parce qu'il s'édifie progressivement comme pur symbole. Mmh. Et c'est cette pureté de l'argent qui est véritablement la fin, nous allons le voir, de cette évolution qui est moins une évolution historique qu'une évolution, j'ose le mot, intellectuelle dans les sociétés humaines.
Oui, parce que les premières pièces, enfin, on parlera de la drachme d'Athènes, n'avaient pas une valeur.
Peut-être pouvons-nous commencer par là, en dehors de Zimmel, sur la question effectivement de la création de la monnaie métallique qui est frappée au nom de la cité. C'est pourquoi nous avons choisi
comme
visuel la drachme d'Athènes. Hein. Alors pourquoi la drachme d'Athènes ? Zimmel fait appel aux monnaies à base d'or, mais pas à la drachme athénienne. Alors pourquoi j'introduis la question de la drachme athénienne ? Parce qu'elle est bien connue de nous. Hein. Elle est frappée d'un côté de la chouette, et c'est la philosophie, la chouette, n'est-ce pas ? C'est l'animal fétiche de d'Athéna.
D'Athéna.
Et de l'autre côté, eh bien, justement, il y a Athéna. Bon, nous sommes sous les auspices de la philosophie d'emblée. Alors, pourquoi parler de la drachme athénienne ? Je vous lis un tout petit texte qui n'est pas celui de Zimmel, qui est celui de l'historien Maurice Sartre, historien donc du Proche-Orient, toujours vivant, puisque le texte, l'extrait dont je vous parle, il apparaît dans un livre de 2006.
Hein. Oui, on les connaît très bien, Maurice Sartre et son épouse.
Oui, ils sont venus à la biographie.
Ils sont venus très souvent à Nîmes,
Oui, Athènes n'a pas été la première cité à battre monnaie, mais elle y est venue assez tôt parmi les cités de la Grèce balkanique et grâce à ses mines d'argent. Elle put frapper régulièrement des pièces de bon aloi et de poids constant. Lorsque la cité s'imposa comme la plus grande puissance maritime de la Méditerranée orientale et le centre d'affaires le plus actif, ces monnaies furent accueillies partout comme un instrument de référence. Alors nous voyons trois thèmes, la cité, la loi, c'est-à-dire l'alliage, qui était un alliage d'or et d'argent, électrum, et nous voyons apparaître aussi eh bien, le fait que ces monnaies circulaient au-delà même, bien sûr, de la ville d'Athènes, mais Athènes qui était une puissance politique. Hein. La plupart des cités, en effet, ne battaient monnaie que très épisodiquement, voire pas du tout. Car battre monnaie coûte cher, etc. Il faut disposer du métal, graveur, enfin, il y a toute une industrie, enfin un processus de production qui est assez complexe. Donc, ce que nous dit Maurice Sartre, pardon, c'est que les autres cités, en particulier les cités phéniciennes, on sait à quel point elles étaient instigatrices justement du grand commerce méditerranéen, les cités phéniciennes ont adopté la monnaie grecque. Alors, entre parenthèses, il y a un témoignage d'Hérodote sur lequel les Phéniciens, avant de battre monnaie eux-mêmes, vers le 6e siècle, utilisaient aussi un système d'échange produit de base, essentiellement d'ailleurs des métaux précieux, contre artefacts de prestige.
Alors, nous allons faire la première pause musicale et ça nous a semblé s'imposer de choisir Monet Monet de Pink Floyd.
C'est très générationnel.
Alors sur Radio Alliance Plus, après Pink Floyd, Monet Monet, la fameuse son du tiroir caisse, nous retrouvons Françoise Gernot pour cette émission Philosophie de l'argent et on va revenir, enfin vous allez revenir sur cette notion de valeur.
Oui, alors avant de montrer à quel point, ou démontrer à quel point c'est l'argent qui détermine la valeur, hein, Zimmel étudie deux choses. Bon, d'abord, Zimmel montre comment, bon, anthropologiquement, nous, hein, il s'agit de, vraiment d'une interrogation sur les processus psychiques des hommes. Zimmel montre comment nous accordons presque spontanément une valeur au phénomène, une valeur aux choses. Nous accordons du prix, des degrés d'appréciation aux choses. Eh bien, nous dit Zimmel, il y a deux ordres. Il parle de deux séquences. Il y a, d'une part, la séquence des phénomènes, par exemple des phénomènes naturels, des choses qui est neutre. Hein. Tous les phénomènes naturels, nous dit George Zimmel, obéissent aux lois de la nature, aux lois physiques. Et encore une fois, il dit ceci, bah, une pierre n'a pas plus de valeur du point de vue de ses lois physiques qu'un morceau d'or. Bon, ça c'est très important. Donc il y a ce premier niveau, qui est le niveau de neutralité, mais une neutralité évidemment corrigée, parce que, encore une fois, ces choses ou phénomènes obéissent aux lois de la physique. Et d'autre part, il y a un deuxième niveau, ce qu'il appelle une deuxième séquence, c'est-à-dire la séquence où nous, en tant qu'hommes, en tant que psychisme humain, nous accordons, je dirais presque spontanément, une valorisation, une appréciation aux réalités naturelles ou aux artefacts, hein, c'est-à-dire des choses produites par l'action humaine. Donc, nous voyons bien deux séries se superposer, la série des phénomènes naturels et la série des valorisations. Nous assignons à leur image, donc à l'image des choses, des, ce que je vais appeler des phénomènes, nous assignons leur image intérieure à une autre série, donc il va s'agir de la série des valeurs, où l'égalité générale est totalement brisée, où l'élévation suprême de tel point se juxtapose à l'abaissement le plus résolu de tel autre, et dont l'essence intime n'est pas l'unité mais la différence. Il s'agit de la hiérarchisation selon les valeurs. Que des objets, des pensées, des événements puissent être précieux, ce n'est jamais lisible dans leur contenu purement naturel et leur ordonnancement, point virgule, et leur ordonnancement d'après les valeurs s'écartent au plus loin de leur ordonnancement naturel. Donc nous voyons là l'écart qui s'effectue, qui se creuse entre les choses de la nature et, comment dire, ces phénomènes qui sont immédiatement susceptibles d'être affectés, d'un système de valeurs, mais un système de valeurs qui va du plus précieux, je dirais, au plus indigne. Il y a bien sûr une, je dirais presque une, un jugement à la fois esthétique et moral dans cette différenciation entre les choses, dans cette différenciation qui valorise ou dévalorise.
Donc vous parliez en introduction du processus historique, en fait, de la...
Oui.
On y vient peu à peu.
Pas encore, pas encore. Et voilà une remarque de pure métaphysique. Ainsi, la valeur constitue en quelque sorte le pendant de l'être. Il y a un monde de la valeur, il y a un monde de l'être. Je crois que Nietzsche n'est pas inessentiel dans l'œuvre de Simmel. Deuxième point dans cette première partie, qu'en est-il justement de la relation entre cette propension à assigner une valeur et le phénomène psychologique du désir? Quel court-circuit,
oui.
Quel court-circuit. Eh bien, il s'agit bien sûr maintenant d'analyser ce qu'on appelle le désir. Bon, alors qu'est-ce qui caractérise le désir? C'est qu'il n'est pas le simple besoin physiologique, je dirais brutal, hein, par exemple de ce qu'on appelle le besoin. Le désir suppose toujours une distance. Et il y a toute une réflexion sur la distance, sur la distanciation, qui peut être à la fois, je dirais, substantielle et temporelle dans cette œuvre qui concerne évidemment l'argent. Je reprends. Le désir, disais-je, creuse toujours une distance entre l'élan vers une chose et, je dirais, sa jouissance. Et cette distance ou cette distanciation, qui j'y insiste, est à la fois psychologique et temporelle, entre donc désir et acquisition effective de l'objet du désir, eh bien, nous verrons comment elle permet de comprendre dans quelle mesure l'argent va être une des médiations, une des médiations ou la médiation par excellence qui comble en quelque sorte, qui à la fois marque la distanciation, parce que par exemple, quand j'ai de l'argent, je ne l'utilise pas tout de suite. L'argent est toujours en attente de quelque chose. Et d'autre part, il y a aussi une temporalité. C'est-à-dire qu'entre le désir et la jouissance que je peux effectivement, d'un objet que je peux acquérir par l'argent, il y a du temps, il y a de l'attente. Mais il y a à la fois la distanciation, mais il y a aussi à la fin la reprise, c'est-à-dire le moment de l'acquisition et si l'on veut, de la jouissance. Alors la jouissance, elle est souvent, et cela sert de modèle assez curieusement, elle est souvent chez Simmel une jouissance esthétique. Je pense que Simmel était un esthète et entre parenthèses qu'il en avait les moyens.
Oui,
en vertu de sa
famille.
Très grande richesse.
Et moi je pense à la frustration entre justement le désir et puis la réalisation de la jouissance.
Oui. Alors justement cette frustration est fonctionnelle. C'est une frustration, je dirais, tout à fait nécessaire. Et cette frustration, elle a pour médium très ambivalent, l'argent. Parce que l'argent, je le possède, mais je suis en attente de quelque chose. Simmel parlera tout à fait à la fin de la première partie que j'étudie aujourd'hui, de ceci, l'argent c'est du crédit. Alors on sait bien que le crédit, suppose l'attente et suppose un renoncement préalable et suppose un sacrifice préalable. Alors effectivement aussi, Zimmel parle de notre relation à l'argent, ou en tout cas l'objet du désir qui serait médiatisé difficilement quand même, avec contrainte par l'argent, il en parle en termes de sacrifice.
De sacrifice. Bien, merci Françoise de nous faire avancer dans ce raisonnement, philosophie de l'argent. On va se retrouver pour une seconde émission où vous commencerez là par le processus historique, hein, puisque on ne l'a pas encore abordé.
Oui, je dirais juste un mot, c'est bien ce retrait provisoire qui fonde la société des individus. Comme une société d'échange généralisée, c'est bien cela la société moderne.